Bonjour Fouad Ouéry.
Bonjour.
Le fonds Mohamed VI, il doit perdurer au-delà de la crise selon l'Alliance des économistes de l'Istiqlal. Pourquoi ?
Écoutez, le fonds Mohamed VI est effectivement d'abord un outil de relance pour aider nos entreprises et aider notre économie à sortir plus vite de la crise. Mais il doit aussi avoir l'ambition d'être un levier de notre nouveau modèle de développement. D'autant plus que dans ses interventions, le fonds va accompagner les entreprises pour sauvegarder l'emploi, pour sauvegarder les métiers, pour développer les entreprises et dans des secteurs donnés pendant plusieurs années. Parce que quand il va investir, il va probablement souvent en abondant les fonds propres de l'entreprise, il va les accompagner et puis ressortir par la suite, donc soit céder ses participations selon différentes voies. Et à ce moment-là, il aura encore de l'argent qu'il pourra réinvestir de nouveau. Donc ce fonds, l'action d'un tel fonds, d'un tel mécanisme peut être pérennisé comme un outil, un levier de développement économique. Et donc il faut voir plus loin et plus grand.
Donc vision à long terme. Néanmoins, Fouad Ouéry, 45 milliards de dirhams hein, à terme pour l'instant pour ce fonds, pour 6 secteurs, tourisme, agriculture, industrie, innovation notamment. Est-ce que ça n'est pas trop de secteurs ?
Non, je ne pense pas que c'est trop. C'est d'abord 45 milliards de dirhams. Bon, pour l'instant, nous avons 15. Les 30 sont à lever.
Bien sûr.
Et là, on souhaiterait très rapidement avoir des clarifications, voir les premières actions, parce que nous inscrivons dans la relance, il y a un effet d'urgence. Il faut que le fonds commence à intervenir dès le deuxième trimestre de cette année. Et donc, lever des fonds est aussi un acte très urgent. Mais ce n'est pas beaucoup de secteurs. Il s'agit de secteurs importants, de secteurs prioritaires qui participent à l'indépendance stratégique nationale et à préparer l'avenir de notre pays. Donc, non, je ne pense pas que c'est trop de secteurs.
Fouad Ouéry, je suis une PME ce matin. Que dois-je attendre, franchement, de ce fonds Mohamed VI pour l'investissement ?
Eh bien, bien entendu, le fonds va fixer des règles probablement d'intervention dans les secteurs. Quelle modalité d'intervention ? Des règles qu'on appelle de plafond, il va fixer des plafonds à ses interventions, des règles de dispersion, etc. Parce que ça, c'est les règles de gestion qui vont assurer la pérennité et la rentabilité du fonds. Mais si je suis une PME, typiquement, je peux attendre à ce que le fonds investisse en fonds propres dans la PME. Aujourd'hui, c'est très important. Les banques attendent ça avec une grande impatience. Parce qu'un certain nombre d'entreprises qui sont viables, qui sont des entreprises qui ont des savoir-faire, qui ont des marchés, qui ont des employés qualifiés, donc qui sont, comme on dit, viables, eh bien ces entreprises ont de grandes difficultés financières du fait de la crise ou du fait d'une sous-capitalisation même antérieure. Et aujourd'hui, les banques rechignent à leur prêter de l'argent pour assurer leur continuité. Si le fonds abonde, augmente les fonds propres de ces entreprises, à ce moment-là, elles deviendront bancables. Et donc les banques pourront prendre le relais du fonds. Et pour une PME, c'est typiquement ce schéma-là qui pourrait être attendu par la PME, qui va lui permettre donc de disposer d'une base financière plus solide pour reprendre ou développer son activité et préserver l'emploi. N'oubliez pas que pour un homme politique, la première priorité, c'est l'emploi. C'est ça la première priorité qui concerne tous les Marocains.
Ouais, on rappelle hein, malheureusement l'emploi à 12% aujourd'hui selon le HCP. Alors au sein de l'Alliance des économistes de l'Istiqlal, vous souhaitez que ce fonds développe des synergies avec l'agence chargée de la gestion des participations publiques. Pourquoi
hein ? Bien, le fonds lui aussi va tenir des participations publiques parce que quand il va investir dans les entreprises, dans les projets, c'est des participations publiques. Donc il est évident que aussi bien dans l'exercice de son métier de contrôle de participation publique que dans un certain nombre de cas, on peut avoir des sociétés publiques où il y a à la fois la participation du fonds et la participation de l'agence, parce que le fonds peut aussi aider des entreprises publiques, pas seulement des entreprises privées. Et donc, cette synergie s'impose d'elle-même.
Vous appelez également à ce que le fonds mette en place des convergences avec d'autres acteurs étatiques, alors notamment le fonds Hassan II, mais les régions également. Pour quelles actions et pour quels bénéfices, Fouad Ouéry ?
Vous savez très bien que dans les prérogatives des régions, prérogative principale, c'est le développement économique. La région, en tant que quantité de collectivité territoriale, est un outil de développement économique. Aujourd'hui, à travers les plans de développement régionaux, des budgets qui augmentent chaque année, qui sont disons significatifs, les régions investissent. Elles investissent dans des activités pour l'instant traditionnelles.
Du coup, ça pourrait être un moyen de solidifier, entre guillemets, la régionalisation ?
Ben aujourd'hui, on a, oui, de toute façon, la région est un acteur de développement économique. Elle choisit elle-même dans la région, avec ce souci de proximité, donc des secteurs, des activités pour développer l'économie, préserver l'emploi. On l'a vu, la région de Fès, Meknès, par exemple, la région de l'Oriental, a donné des subventions à la création d'emplois. Par exemple, pour les sociétés de l'offshoring. Des choses comme ça. Elle peut demain aider des entreprises en fonds propres. Il peut y avoir des fonds de développement régionaux basés sur l'investissement en fonds propres. Donc, il est tout à fait logique que la région et le fonds Mohamed VI puissent travailler en synergie pour... parce que, vous savez, à deux, on peut faire plus de choses. On peut mettre plus de moyens. Le fonds doit aussi s'inscrire dans les priorités de développement des régions. Parce que c'est là qu'il y aura le plus de chances de succès.
Donc, doit-on relancer, selon vous, le projet de facturation électronique qui, je le rappelle, a été abandonné par le gouvernement en 2019 ?
Écoutez, c'est très douloureux. C'est très douloureux de parler de cet événement. Après Rosa Mort, on pensait qu'on allait prendre des mesures, mais que c'est comme beaucoup de choses. On annonce et puis après, on ne fait rien. C'est vraiment très douloureux et très malheureux. Moi, ma réflexion, vous savez, pour imposer des réformes, faire des changements, donc réformer la manière dont on pilote, dont on contrôle ces phénomènes-là, il y a des prérequis. L'un des prérequis, c'est la crédibilité. Vous savez, quand on a un ministre de l'Emploi qui ne paye pas la CNSS pour ses employés, on manque de crédibilité pour mener des actions comme ça. Au niveau national, vous avez raison, tout ce qui concerne la fiscalité est un levier important pour intégrer les gens dans de l'informel vers le formel, la fiscalité, la protection sociale.
Oui.
Le fisc marocain fait du très bon travail, je pense qu'il peut continuer. Mais pour moi, la mère des batailles, Landry, c'est la lutte contre la corruption. C'est ça qui gangrène notre pays. Et cette lutte contre la corruption, pour l'instant, on ne l'a pas encore vraiment commencé au Maroc.
Mais donc la facturation électronique, c'est une étape qui pourrait, entre guillemets, aller trop vite, qui pourrait braquer peut-être aujourd'hui dans la lutte contre l'informel ?
Non, vous savez, la conduite du changement, si on veut changer le comportement des acteurs économiques, il y a un processus, une conduite de changement implique une stratégie, un leadership, des objectifs et une planification. C'est faisable, mais il faut le faire avec détermination. Je sais qu'on a commencé puis on a reculé. Je vous parle de la détermination et de la crédibilité en politique. C'est fondamental parce que si on veut amener les gens à adopter des nouveaux comportements, il faut aussi le consentement du citoyen ou de l'assujetti aux impôts. Et le consentement passe par, il faut croire à la réforme et il faut que ceux qui l'amènent soient crédibles et soient exemplaires. Et donc, ça, j'appelle à cette exemplarité, à cette nécessité d'exemplarité et de crédibilité pour que le citoyen adhère, ou le citoyen, l'entrepreneur, adhère et qu'il y croit. Et à ce moment-là, les choses avanceront plus vite.
Alors, plusieurs unités industrielles ont dû fermer provisoirement à Tanger comme à Casablanca. Le patronat, lui, appelle de son côté à une task force de l'informel. Est-ce que vous êtes intéressé, vous, en tant que représentant de l'Istiklal, je parle du parti, par cette task force? Est-ce que c'est une bonne idée, une bonne proposition?
Quand on fait une conduite du changement, évidemment, on doit avoir, comme je vous l'ai dit, un plan d'action et des responsables. Et ces responsables, effectivement, qui doivent avoir donc le soutien, les moyens. Mais encore une fois, je vous l'ai dit, les prérequis, notamment de cette task force. Bon, si on me disait demain qu'il y a une task force qui est présidée par un homme de l'envergure et de la qualité de Cédric Chouto, je dirais oui, il y a beaucoup de chances que ça réussisse. Effectivement, mais là aussi, il faut chercher, j'espère qu'on trouvera. Et on a au Maroc, dans notre administration, on a des grands profils, on a des gens de grande qualité.
Bien sûr.
Donc je pense que ce n'est pas le problème, ça.
Oui.
Par contre, c'est la détermination, la volonté politique, la manière dont on pourrait conduire cette action qui pourrait faire son succès.
Fouad Dury, une toute dernière question en réaction à l'émission satirique sur Échourouk TV en Algérie. Ça a fait beaucoup parler. On a vu plusieurs partis politiques réagir. Vous, quelle est votre réaction par rapport à ça? Est-ce que vous êtes inquiet également pour l'Algérie? On voit situation politique très compliquée avec peut-être l'annonce cette semaine d'élections législatives anticipées.
Bah écoutez, le climat en Algérie, effectivement, on connaît les déterminants de la politique algérienne, notamment cette stratégie du bouc émissaire que les dirigeants algériens poursuivent avec obstination depuis de longues années. Mais je pense que le Maroc est un pays sage, qui l'observe, mais il ne faut pas insulter l'avenir, parce qu'un jour ou l'autre, avec nos amis algériens, on trouvera les bonnes solutions et on travaillera ensemble, parce que c'est inéluctable et parce que c'est l'intérêt de nos peuples. Donc, en tant que responsable marocain, il faut évidemment être très vigilant, être préparé à toutes les éventualités, mais en même temps, il faut laisser la chance à ce que, je dirais, on ne doit pas avoir les mêmes comportements que ce type de comportement qui ne mérite pas vraiment qu'on s'y attarde.
Merci beaucoup, Fouad Houri.
Merci à vous.